Ce soir, nous sommes à Silo. C'est en Samarie, une ville sanctuaire dans laquelle repose l'Arche d'Alliance. Le temple de Jérusalem n'est pas encore construit. Nous sommes au début de l'ère des juges, dans les années 900 avant Jésus, avec Samuel, un jeune prophète que Dieu envoie pour notamment consacrer le roi Saül sur le trône d'Israël. Là, nous sommes au tout début de la vie de Samuel. Il est encore tout jeune. Il est au service d'Élie. Alors, Élie, ce n'est pas le prophète que nous connaissons bien. Élie, c'est un grand prêtre. C'est lui qui s'occupe du sanctuaire et qui assure l'éducation religieuse, donc, du jeune Samuel. Élie s'occupe du temple. Il est assisté aussi de ses deux fils qui sont prêtres. Sauf que ses fils ont la fâcheuse tendance à se servir durant les offrandes, ils prennent la meilleure part pour eux, et cela déplaît fortement à Dieu. Alors, le Seigneur décide d'envoyer un avertissement à Élie, et pour cela, il passe par l'intermédiaire de Samuel. C'est sa façon de faire habituelle, il parle en songe durant la nuit au jeune garçon. Alors Dieu l'appelle, Samuel, Samuel, mais bon, le garçon ne comprend pas, il se trompe même en pensant que c'est le vieil homme, le prêtre qui l'appelle auprès de lui, puisque donc ils vivent ensemble au sein du sanctuaire. D'ailleurs, ce serait un peu étonnant que Samuel reconnaisse tout de suite la voix de Dieu alors qu'il ne l'a jamais entendue. Donc Dieu l'appelle, et pourtant, la parole de Dieu se fait rare en ce temps-là. On nous dit au début du texte, il arrive à Dieu de se taire. Il lui arrive de rester en silence parce que nous sommes dans un brouhaha permanent. Il lui est inutile de parler si personne n'écoute. Quand il y a trop de bruit qui résonne, trop de paroles en l'air, alors le message se perd et reste vain. Mais ici, Dieu semble décidé à sortir de son silence. C'est vrai qu'il est en colère. Alors, il appelle Samuel. Et c'est seulement au bout de la quatrième fois que la communication est enfin établie entre les deux. C'est que Dieu ne manque pas de patience et de persévérance. Et puis, cette mise en relation, elle n'est possible que parce qu'il y a Élie, le vieux prêtre, qui a déjà de l'expérience et qui reconnaît la voix céleste. Alors, il explique au jeune garçon comment faire, comment se tenir face à cet appel. Si tu entends à nouveau cette voix, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » L'écoute, oui, c'est la condition pour que la parole advienne. C'est seulement si l'homme écoute que Dieu peut parler. Et en hébreu, le verbe « écouter », c'est aussi le même verbe qui veut dire « obéir ». Finalement, l'écoute, elle est déjà un commandement. Et on voit même, cette écoute, elle est placée au tout début du texte de la confession de foi d'Israël, que nous retrouvons dans le livre du Deutéronome, le fameux texte « Shema Israël », c'est-à-dire « écoute Israël ». Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et c'est vraiment le texte fondateur de la foi d'Israël parce qu'elle dit la foi en un Dieu unique et en un Dieu d'amour. Et d'ailleurs, après, Jésus, plus tard, dans l'Évangile, rajoutera le commandement d'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, au commandement de l'amour précède le commandement de l'écoute. D'abord, écouter le Seigneur, ce qu'il a à nous dire, écouter sa loi, écouter la promesse qu'il veut conclure avec nous, et puis s'écouter soi-même avant de pouvoir écouter les autres et les aimer. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est étonnant parce que Samuel, déjà dans son nom, porte avec lui l'écoute, puisqu'en hébreu, Samuel signifie « Dieu a entendu ». Dieu a écouté Anne, la mère de Samuel, qui était désespérée de ne pouvoir avoir d'enfant. Et Dieu l'exauce, Samuel naît, et alors Anne décide de confier son jeune garçon au prêtre Élie. Nous voici donc au début de cette relation entre le garçon Samuel, serviteur, auprès du maître Élie. Mais nous dépassons un peu cette relation assez traditionnelle du maître et de son serviteur. Nous voyons plutôt un professeur avec son élève. Quelque part, Samuel est en apprentissage auprès d'Élie. Et puis, ils vivent ensemble. Ils dorment tous les deux à côté du coffre de l'Arche de l'Alliance. Et je pense que le prêtre est pris d'affection pour ce jeune garçon. Il, presque comme un père à son fils, il lui dit « Ce n'est rien, mon enfant, tu as fait un cauchemar, retourne te coucher. » Et puis le lendemain, Élie demande à Samuel « Alors, que t'a dit le Seigneur cette nuit? Raconte-moi tout, je veux tout savoir. » Et si tu ne me le dis pas, attention, il va te punir. Donc on voit un peu le père essaye de savoir, mais pour autant et reste un père rassurant puisqu'il lui dit ce que tu as entendu, c'est forcément la voix du Seigneur et le message que tu me délivres, eh bien oui, c'est juste. Il y a eu une faute, et bien que le Seigneur fasse ce qu'il juge bon de faire. Et ici, c'est le tout premier texte dans la vie de Samuel, où vraiment ce vieux prêtre Élie va conforter Samuel, conforter dans son début de mission en tant que prophète, en tant que porte-parole de Dieu. Alors oui, c'est vrai que le message que reçoit Samuel, il est très dur. Il est presque inaudible, puisqu'il s'agit de la condamnation de toute la famille d'Élie. Alors Samuel se retrouve face à un dilemme. Doit-il tout révéler à son maître? Ou bien, par égard pour lui, est-ce qu'il doit lui cacher cette dure vérité et puis voir comment on peut s'arranger? D'ailleurs, l'adolescent garde le temps de la nuit pour prendre conseil, pour reposer cette annonce, l'accueillir. Et ce n'est que le lendemain qu'il enfin révèle tout à Élie. Nous sommes où nous avons déjà été dans cette situation, où nous avons reçu une parole, une nouvelle difficile à entendre, et que nous hésitons à transmettre à nos proches. Souvent, par égard pour eux, nous ne voulons pas les blesser, nous ne voulons pas les inquiéter, alors nous hésitons à tout dire. Mais alors, lorsque les proches vont apprendre cette nouvelle bien plus tard ou par quelqu'un d'autre, ils risquent d'être vexés ou blessés, justement. Alors, est-ce qu'il faut tout révéler et est-ce que c'est si facile? Non, bien sûr. Et puis, chaque situation est différente. Alors, il n'y a pas une seule réponse, une seule bonne réponse. Mais je pense qu'il faut essayer toujours de garder le contact, de garder le dialogue et ne pas couper ce lien, qu'il y ait toujours l'écoute et la parole, sinon il n'y a plus de vie. Et en tout cas, je me dis que ce texte de Samuel nous interroge. Et puis, Samuel est quelque part pour Élie ce que nous, aujourd'hui, nous appelons peut-être un lanceur d'alerte. Alors, c'est un terme très courant, enfin, depuis quelques années, très à la mode. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? C'est celui qui est au courant d'une menace pour le bien commun, pour l'intérêt du monde, Et puis, il va essayer d'en informer ses proches, ses contemporains, et essayer de trouver une solution face à cette menace. Alors, vous allez me dire, en 900 avant Jésus, en Samarie, nous sommes au temps des prophètes, on ne peut pas forcément parler de lanceurs d'alerte, mais en tout cas, il y a cette menace du bien commun qui est présente, et puis il y a cette voix qui s'élève et qui ose parler et qui ose questionner. Le Seigneur commence son annonce en disant « Je vais frapper Israël d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. » Il dit ça parce que Élie, en tant que grand prêtre, représente l'autorité religieuse du pays. Il représente tout le peuple d'Israël. Alors je pense que Samuel est là pour questionner, pour dire si cette figure d'autorité du prêtre s'effondre, alors sur quelle fondation allons-nous reposer? Si même les prêtres sont corrompus et abusent de leur pouvoir, alors qui servira d'exemple? Et quel est l'avenir du pays? Et pour terminer, je voulais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi. Et puis, il y a eu des contrôleurs qui sont venus, qui ont verbalisé un jeune homme qui n'avait pas de ticket. Et puis, une femme, alors, s'est levée à parler à voix haute en disant « Mais ce n'est pas normal que l'on soit contrôlé, le bus avait énormément de retard, il y avait un gros problème de trafic, visiblement. Il n'y avait pas du tout de signalisation, rien d'écrit, rien d'annoncé. Vous vous rendez compte, pour des personnes en situation de handicap, c'est compliqué de s'organiser s'il n'y a pas de bus et si on n'est pas prévenu. » Alors, cette femme a parlé pendant tout le trajet, elle avait visiblement quelque chose à dire. Et puis, je me suis mise à l'écouter, voilà. Et finalement, ce qu'elle disait, ça partait un peu dans tous les sens et elle était visiblement un peu dérangée, mais le fond de son message était de dire que nous perdions nos valeurs, que ce qui était de l'ordre de la fraternité, de l'écoute, de la tolérance envers les autres, n'existait plus, ou en tout cas se perdait. Et surtout, elle disait qu'il n'y avait plus d'écoute. Il n'y avait plus d'écoute parce que chacun était chez soi, chacun restait dans son monde, et du coup il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus d'écoute et plus personne à qui parler. Alors elle a questionné, mais où allons-nous si nous restons ainsi et si nous ne voyons même plus celui qui est à côté de nous? Je me suis dit que du temps de Samuel, peut-être que cette femme aurait dit qu'elle était prophétesse. Bon, nous ne sommes plus autant des prophètes. Nous parlons de lanceurs d'alerte. Nous parlons d'autres termes pour désigner ceux qui ont encore le courage de parler, de dire à voix haute ce que tout le monde pense peut-être tout bas, et en tout cas de se faire le porte-voix de ceux qui n'en ont pas. Alors oui, cette femme a peut-être été maladroite, peut-être qu'elle a pu déranger certaines personnes, mais en tout cas, elle a dit beaucoup de choses et avec conviction. Et surtout, elle a questionné sur le monde que nous voulions laisser à nos enfants et de savoir si c'était un monde plus fraternel et plus juste que nous voulions laisser, où nous pourrions vivre ensemble dans l'attente du royaume de Dieu. Alors je me dis, heureusement qu'il y a encore des Samuel que nous croisons dans le bus pour nous tenir éveillés. Amen.